Et au menu de notre club aujourd'hui, un ouragan dévastateur, les inventeurs de la médecine et des instruments de musique intelligents. Je vous présente mes nombreux invités donc dans un instant. 85 000 pages d'archives, c'est ce qu'a laissé à sa mort il y a 2 ans le génie des mathématiques Alexandre Grothendieck, un trésor scientifique qui est aujourd'hui à la une de la science. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu, un trésor maintenant complet qu'il va falloir estimer et valoriser à sa juste valeur, car ces pages contiennent peut-être les clés de l'unification des mathématiques dont Grothendieck a rêvé toute sa vie.
Stéphanie Texier réalise ce club des têtes au carré préparé par Emmanuel Fournier avec Dylan Beiner.
La tête au carré, le club avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Des ouragans, de la médecine et des instruments intelligents, donc les sujets de notre club dans un instant avec mes invités que je salue, Jacqueline Farmer, Fabrice Chauvin, Bernard Guiraud-Chomeil et Adrien Mamou-Mani. Bonjour, à vous quatre,
bonjour.
Bienvenue.
Bonjour.
Jacqueline Farmer et Fabrice Chauvin, on va parler avec vous du film Ouragan qui est sorti donc mercredi sur les écrans. Pour raconter l'histoire d'un ouragan, Jacqueline Farmer, il faut en réalité en filmer à peu près 18 différents. La bête est difficile à saisir. Hein.
C'est ça, c'est une longue histoire qu'on a commencé il y a 5 ans avec pour mettre tout ça ensemble pour raconter l'histoire de la tempête Lucie.
Voilà, vous avez chassé tous ces ouragans pour raconter l'histoire d'un seul. Fabrice Chauvin, est-ce que ces événements météorologiques extrêmes sont plus nombreux aujourd'hui ou seront plus nombreux dans le futur?
Alors, pour l'instant, pour aujourd'hui, on peut pas donner d'informations particulières puisqu'il faut, pour pouvoir dire qu'ils seraient plus nombreux, il faudrait avoir une base de données homogène dans le temps. Donc ça, on peut rien dire. Les modèles, les prédictions, les projections climatiques des modèles n'indiquent pas un nombre plus intense. Donnerait éventuellement quelques ouragans plus intenses, parmi les plus intenses. Mais
pas plus nombreux en nombre, en tout
pas
cas.
Pas plus nombreux en nombre, voire peut-être moins.
Bernard Guiraud-Chomeil, vous publiez « Ils ont inventé la médecine ». La vaccination, ça marque un tournant pour l'image de la médecine auprès des patients?
Sûrement. C'est certainement la première efficacité médicale préventive. Oui. 60 millions de morts durant le XVIIIe siècle. Louis XIV l'a eu, mais il n'en est pas mort. Mais Louis XV l'a eu, il en est mort. 60 millions de morts, et pour la première fois, un Écossais va démontrer que l'on peut ne pas avoir la variole. En ayant trouvé la vaccine, qui était une maladie de la vache, en ayant démontré que il a vu que sur les doigts des gens qui traillaient les vaches, il y avait les mêmes pustules que sur les pieds des vaches, il a compris que ces gens n'avaient pas la variole, et donc il a trouvé le moyen de faire. Alors c'est sûr que ça a changé complètement. La variole n'existe plus.
Ouais. Et c'est donc un passage important où on verra justement que la médecine est enfin capable de guérir. Épisode parmi de nombreux autres qu'on va évoquer avec vous. Adrien Mamou-Mani, ça ressemble à quoi un instrument intelligent puisqu'apparemment il est à nos côtés dans ce studio?
Un instrument intelligent, il a un petit capteur qui lui permet d'écouter son environnement. Mmh. Il a des petits vibreurs qui permettent de le transformer, qui lui permettent d'agir sur cet environnement. Et il a entre les deux son intelligence, qui sont des algorithmes qui lui permettent de transformer ses propriétés vibratoires selon ce que souhaite le musicien.
Voilà, et donc de faire des sons tout à fait particuliers que vous nous ferez entendre tout à l'heure. Vous êtes venu avec votre guitare et accompagné du koala, je crois. Vous êtes avec nous à l'occasion du festival Manifeste de l'IRCAM pour parler de ces instruments de musique augmentés. On se retrouve donc dans un instant avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Il s'appelle Alexandre Grothendieck, il est à la une de la science aujourd'hui. C'était l'un des plus grands génies des mathématiques du XXe siècle, mais il était également une personnalité tout à fait à part.
Je connais un certain nombre de mathématiciens, puisque je parle ici surtout de mathématiciens, puisque c'est le milieu que j'ai le mieux connu, qui sont devenus fous. Je ne pense pas que ce soit une chose vraiment spéciale aux mathématiciens.
Voilà, et c'est sa voix. Hein. Depuis les années 90, Alexandre Grothendieck avait choisi délibérément de disparaître après 23 ans d'exil dans un petit village de l'Ariège où il est mort en 2014. Eh bien, ses notes et archives, plus de 85 000 pages, viennent tout juste d'être rassemblées par sa famille et vont être vendues. Mais que vaut réellement ce trésor de science et d'histoire? Bonjour Philippe Douroux.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Libération. Vous avez publié hier une double page hein, sur vraiment cette aventure scientifique hors norme. Mmh. Alexandre Grothendieck, on entendait sa voix il y a un instant. Ils sont nombreux les enfants? Enregistrement, on peut
non,
justement l'entendre.
J'en connais qu'un, c'est celui-là au CERN, où il était allé rencontrer des physiciens qui n'aimaient pas beaucoup les physiciens, il leur dit d'ailleurs. Mais c'est, à ma connaissance, le seul enregistrement qui existe. Il y a un tout petit enregistrement qui a servi dans un film, mais c'est négligeable.
Et là, c'est 1972, en l'occurrence.
Avant de parler de ces archives, un petit mot sur l'importance de Grothendieck dans l'histoire des mathématiques. Comment on peut mesurer son importance aujourd'hui?
Son importance, on peut la mesurer avec le nombre de médailles Fields qui sont dans son sillage. On considère qu'à peu près un tiers depuis 1966 des médailles Fields sont dans son sillage. Il a révolutionné ce qu'on appelle la géométrie algébrique, qui est la tentative de réunification de l'algèbre, qui est très très fort pour démontrer, et de la géométrie pour montrer. Il faut des outils, il les a en partie construits. C'est une construction qui est en cours et qui continue. Il a bouleversé les règles, mais comme tout génie, comme Nureyev a bouleversé les règles de la danse.
Ouais. Alors ce récit que vous avez raconté dans l'IB hier, c'est celui d'une histoire incroyable et surtout d'un héritage. 85 000 pages de notes mathématiques.
Alors, il y a un peu de tout. Il y a d'abord les 20 000 pages qui étaient à Montpellier et que Montpellier devrait maintenant rendre à la famille.
L'université de Montpellier.
Voilà, l'université de Montpellier, où il avait enseigné, où il avait été élève. Bon, là, il y a du courrier, il y a aussi des mathématiques. Et puis, alors, à la fin de sa vie, il a écrit pendant 23 ans, sans arrêt, sans jamais s'arrêter. Il a dû s'arrêter en août 2014, il est mort en novembre 2014. Et il a écrit des mathématiques jusqu'à un âge très avancé. Et puis après, il est parti dans ce qu'on peut appeler soit une méditation, soit
une retraite,
un délire, ouais. Ce qu'on veut. Moi, je regarde ça comme une méditation un peu folle, un peu extraordinaire aussi, très touchante d'un homme qui se bat contre le diable qui lui a retiré, dit-il, le droit, l'envie de chercher.
Alors, ce fonds Grothendieck va être maintenant estimé dans le but d'être vendu. Comment on fait pour estimer ce genre de patrimoine complètement immatériel?
Mais on se tourne vers un certain nombre d'institutions en leur disant « Est-ce que ça vous intéresse ?» Et c'est toute la difficulté aujourd'hui. Il faudrait que les institutions françaises regardent le problème d'un tout petit peu plus près que... Parce que vous tournez vers une université américaine, vous lui dites « Le fonds Grothendieck, est-ce que ça vous intéresse ?» Elle va dire « Oui ». Elle va dire oui, et vous mettez combien? Vous mettez 5 millions, 3 millions, 12 millions.
Ce sont les estimations qui sont déjà faites aujourd'hui ou pas?
Non, ça paraît vraisemblable parce que, par exemple, le fonds Foucault a été acheté par la BNF 4 millions 8. Bon. Alors, des gens vous diront, oui, Foucault à côté de Grothendieck, c'est pas très important pour l'avenir de l'humanité. Le fonds de Guy Debord, c'est 3 millions 2. Bon. Voilà. Donc, est-ce qu'on va descendre à 1 million 2? J'en doute parce que je pense que Yale, Harvard, etc. mettront son... me semble-t-il, mais il faut se tourner vers eux. 5 millions sur la table, ce sera pas un problème. Maintenant, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Ça, c'est une décision qui appartient aux enfants. Et où ça va aller?
Est-ce que des mathématiciens ont pu regarder un peu ces notes-là, déjà dernièrement?
Non, ce qui est fascinant, c'est que vous avez, par exemple, à Montpellier, enfin dans ce qu'on appelle le fonds Montpellier, 800 pages sur les motifs. Les motifs, c'est le cœur du cœur des mathématiques de Grothendieck, sur lesquels des mathématiciens travaillent depuis 1964. On a beaucoup avancé. Et en même temps, il y a 800 pages, là, écrites par Grothendieck sur les motifs, que Yves André, qui est un spécialiste en France des motifs et des mathématiques de Grothendieck, a pu voir pendant une demi-heure. Autant vous dire, pas du tout, puisqu'il faut à peu près 10 heures de travail sur une page de Grothendieck pour arriver à une publication académique.
Et là, il y a 800 pages, en l'occurrence, sur ce thème.
Alors, les mathématiciens vous disent, oui, il n'y a sans doute pas un secret absolument extraordinaire que nous n'aurions pas trouvé, mais oui. Qui peut dire que...
Alors c'est ça, oui. Est-ce qu'on peut estimer la valeur scientifique de telles archives?
Alors, Georges Malcignotis, qui est un autre mathématicien grothendieckien, a passé 2 jours à la Serre pour évaluer le travail de Grothendieck, laissé donc dans l'Ariège. Il estime que 4000, 5000 pages sont des mathématiques qu'il qualifie de classiques, c'est-à-dire que ce sont des mathématiques. Et des mathématiques de Grothendieck, aucun mathématicien au monde ne dira que ça n'a pas d'intérêt ou que c'est négligeable.
Est-ce qu'il y a une chance que ce patrimoine reste en France?
Oui, il y a une chance, mais il faudrait, je trouve, moi, que la BNF, notamment, s'intéresse un peu aux choses, que l'IHES, qui a été l'institut qui a abrité Grothendieck pendant des années, se bouge un tout petit peu, parce que pour l'instant, on a l'impression que ça n'intéresse pas grand monde. Je pense que bientôt, on va voir fleurir des propositions venues de l'étranger, et on sera à nouveau en se disant « mais quelle horreur », etc.
Or,
on ne peut pas... en France, on ne peut pas priver les enfants de l'héritage. Voilà, ça n'est pas possible. Il y a une loi qui dit que... Donc, il faut trouver un prix.
Justement, ces enfants de Grothendieck, ils sont au nombre de 4 ?
5.
Ils ont envie de communiquer là-dessus. Ils ont envie de dire à la France, justement, de garder ce précieux héritage ou pas ?
ne sont pas des très grands communicants. Maintenant, leur sentiment à eux, c'est que oui, il serait préférable, souhaitable que cela reste en France. Encore faut-il connaître le prix des choses et monter un dossier, un chantier, etc. Ils sont eux, leur grand souci, il est double, c'est que le fonds soit préservé et mis à la disposition de la communauté scientifique. Mmh. Et l'un et l'autre nécessitent un effort assez important. On ne peut pas confier ça à une petite librairie.
Mmh. Ça fait 5 ans que vous travaillez à essayer de ressortir de l'oubli ce génie. Beaucoup de nos auditeurs, c'est certain, ne le connaissent pas. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour leur parler de Grothendieck?
Oh, c'est un enfant qui est arrivé en France avec une vague de réfugiés. Ça doit rappeler quelque chose à quelqu'un. Une vague de réfugiés en 1939. Ses parents viennent de la guerre d'Espagne, la retirada, il les retrouve en France et il est immédiatement enfermé dans un camp de réfugiés. Et cet enfant qui est enfermé dans un camp de réfugiés a 11 ans et il découvre qu'il y a un lien très stable entre la circonférence d'un cercle et son diamètre. Et à partir de là, il considère que les mathématiques et son royaume, qu'il n'a pas grand-chose à apprendre dans les livres.
11 ans.
Ouais. Alors, c'est un âge où les grands mathématiciens trouve ce genre de choses. Et lui, il s'accroche parce qu'en plus, il se trompe. Il trouve pas pi, il trouve 3. Mais il explique très bien qu'à partir de ce moment-là, il a une puissance et une confiance en lui telle que plus rien ne l'arrêtera et qu'il va reconstruire des mathématiques et, en fait, découvrir qu'il y a d'autres mathématiciens au monde aux alentours de 22 ans, quoi. Ouais. Et à partir de ce moment-là, il va obtenir sa médaille Fields en 66. Il va bouleverser quand même les mathématiques.
Et toute cette histoire, eh bien, vous la racontez justement dans un livre, Philippe Douroux, Alexandre Grothendieck, sur les traces du dernier génie des mathématiques. Ah bon? Vous
estimez
qu'il y en aura plus d'autres après lui?
Non, il y en aura peut-être. J'espère qu'il y en aura d'autres. Mais d'abord, il y a un problème en mathématiques, c'est que le fractionnement des mathématiques est tel qu'aujourd'hui, un grand mathématicien qui a la médaille Fields vous dira « je maîtrise 1% des mathématiques », von Neumann disait 28%. Voilà, ça se fractionne. Et là, ça devient compliqué.
Allez, merci beaucoup d'être venu. Cette double page donc dans Libé, c'était hier. Et puis ce livre donc publié sur aux Internet. Éditions à l'arrêt, ou sur Internet, bien sûr, sur libé.fr. Merci beaucoup, Axel.
À lundi.
À lundi. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, une nouvelle espèce de mouche découverte par des scientifiques de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, dans le jardin botanique Jean Massard à Bruxelles. Du coup, baptisée Drapetis bruxellensis, cette mouche de 2 mm au thorax brillant et noir a été trouvée grâce à un piège à insectes installé en 2015. Découverte surprenante, car la faune d'Europe occidentale est une des plus répertoriées au monde. Il est donc rare de découvrir une nouvelle espèce dans ces régions. Selon les entomologistes, cette minuscule mouche vit sur les troncs d'arbres et les feuilles où elle chasse des acariens et des insectes encore plus petits qu'elle. On comprend de mieux en mieux comment fonctionne la prise de poids. Selon une étude publiée dans la revue Nature, ce sont des modifications du microbiote intestinal qui influencerait l'obésité. Les chercheurs ont remarqué que lorsqu'elles reçoivent une alimentation trop calorique, les populations bactériennes de nos intestins changent. Par un jeu de messagers chimiques, ce changement de microbiote favoriserait la sécrétion d'insuline par le cerveau, l'hormone de l'appétit. L'insuline conduit ensuite à une prise alimentaire excessive, voire compulsive. Un cercle vicieux détaillé, donc pour la première fois, et dans lequel le microbiote a une place absolument centrale. Et puis au Japon, une start-up prévoit d'utiliser des satellites pour lancer des pluies de météores artificielles. Le but est de déclencher une pluie d'étoiles filantes pour la cérémonie d'ouverture des JO de Tokyo en 2020. Pour ce faire, le satellite lâcherait de petites particules faites d'éléments chimiques qui donneront des couleurs vives lors de leur combustion dans l'atmosphère terrestre. Manque plus qu'à trouver maintenant des financements. En effet, le lancement de 1000 météores artificiels s'élèverait à plus de 8 millions d'euros, soit 8000 euros la fausse étoile filante. Allez, notre club dans un instant.
On était beau, c'était hier, bercé par les hélicoptères, un peu de sable dans tes cheveux, d'azur s'embrasse parmi les feux, plus rien ne naissait sur nos terres, le ciel rempli d'hélicoptères, au printemps rien d'amer et creux, quand on se prenait pour des dieux. Ta main qui dessinait en l'air un paradis derrière la mer, un désert où tenait le son, loin de l'écho des oraisons. Ta main qui dessinait en l'air un paradis derrière la mer, un désert où tenait le son, loin de l'écho des oraisons.
Hélicoptère, Minou à l'instant.
La tête au carré. Le club.
Et dans le club cet après-midi, un ouragan géant, les inventeurs de la médecine et des instruments de musique intelligents. Vos messages et vos questions pour nous rejoindre en direct sur franceinter.fr et sur le mot-clé, la tag Jacqueline Farmer. Vous êtes donc réalisatrice et productrice de ce film, oui. Ouragan, qui est sorti mercredi sur les écrans. À vos côtés, Fabrice Chauvin, vous êtes spécialiste du climat des cyclones, chercheur au Centre National de Recherche Météorologique, c'est un centre CNRS Météo France. Et c'est la comédienne, oui, Romane Boringer, donc, qui incarne l'ouragan Lucie, dont voici la bande-annonce.
J'aurais pu être un simple nuage, un petit vent, comme ceux qui naissent et qui meurent chaque jour dans les plaines d'Afrique centrale. Mais en ce jour de mois d'août, chute, je peux entamer ma métamorphose.
Acaba de convertirse en un huracán categoría 1.
Make this a tropical storm loose. Copy. We'll see.
Las lluvias que caían y el río que comenzaba a crecer. Yo no quiero morir aquí.
Clearing Puerto Rico and heading towards Cuba.
Vous ne me connaissez pas tant que vous n'avez pas vu mon cœur.
Et voilà, faire d'un ouragan le héros d'un film. C'est quand même gonflé comme idée au départ, hein, Jacqueline Farmer. Hein.
Oui, on s'en rendait.
Vous vouliez faire un film sur
compte.
Le vent.
Oui, oui, ah, oui, on s'est pas rendu compte au début, je pense, dans quoi on allait se mettre. Mais effectivement, ouais, c'était compliqué pour plein de raisons, du fait qu'on avait décidé de faire de la 3D sur le terrain.
Ouais.
Donc, ça implique amener plein
des
de caméras.
Des caméras particulières. Ouais.
Oui, et les caméras étanches, les rigs en 3D, plusieurs différentes sorte de rig en 3D, des rigs miroirs, des rigs side by side pour des prises de vue loin, de près.
Ouais.
Et la logistique autour de la météo qu'on sait n'est jamais très très prévisible. Donc ouais, du coup, ouais, c'était pas simple comme ouais, tâche. Ouais, ouais.
Donc un ouragan, c'est quoi l'idée pour vous au départ? Vous êtes réveillé un matin en disant tiens, je vais faire un film sur le vent.
Moi je suis pas française, je suis britannique,
ah
écossaise,
bon
oui. Et j'ai découvert le Mistral dans le sud de la France il y a ouais, quelques années, et j'étais frappée de remarquer à quel point le Mistral a une vraie influence sur le paysage des Bouches-du-Rhône où je vis maintenant, mmh, sur les gens, sur l'architecture, sur la végétation, sur la nature. Et à partir de ces réflexions, on s'était dit avec toute l'équipe, ça serait vraiment intéressant de faire un film sur le vent. On était assez intrigués par l'idée de filmer quelque chose d'invisible.
Ouais.
Et après, on a cherché, on a mené des mois de recherche, en fait, autour du vent, et on a trouvé ces histoires d'ouragan qui, pour nous, étaient, en termes de cinéma, des vraies histoires avec une véritable arc narratif, avec un début, un milieu, un fin, et quelque chose qu'on pourrait vraiment aller explorer en oui, termes d'image.
D'où l'idée de raconter une seule histoire, celle de Lucie. Hein,
oui.
Donc cet ouragan qui n'existe pas, que vous avez créé, donc à partir de plusieurs événements qui, eux, évidemment, ont été filmés. Donc c'est à la fois quoi? Une fiction, un documentaire, puisque toutes les images sont réelles?
Oui, c'était le problème pour nous des ouragans, mais c'est tant mieux hein, pour les populations qui vivent ça régulièrement, c'est mmh, qu'elles durent que 15-20 jours maximum dans la bassin d'Atlantique.
Mmh.
Fabrice, je ne sais pas si... Oui,
vous confirmez
que... Oui, oui.
Durée d'un ouragan, vingtaine de jours à peu près.
Oui, même plutôt moins. Les plus longs qui ont été enregistrés ont duré un mois, me semble-t-il. Mais
ouais,
en règle générale, c'est quelques jours de l'ordre d'une dizaine, je dirais. Oui.
Donc il faut se dépêcher pour les filmer.
Bah oui, mmh, et c'était pour nous impossible d'avoir des équipes de cinéma stationnées partout dans le monde pour pouvoir suivre ça sur une durée de 10 jours. Donc du coup, on est parti sur une période de tournage de 3 ans à filmer tout plein d'ouragans différentes. Mmh. Parce que ça dépend aussi des saisons. Des années, il y en a beaucoup. Des années, il n'y en a pas beaucoup. Ça, c'est vraiment selon tout plein de phénomènes météorologiques. Et à partir de ces images-là, on a reconstruit l'histoire de Lucie, qui est une histoire un peu moyen, je dirais, d'un ouragan.
Représentative, en tout
oui,
cas.
Qui traverse la bassin de l'Atlantique.
Ouais. Est-ce que c'est facile, Fabrice Chauvin, justement, d'anticiper, en tout cas, la naissance jusqu'à la mort d'un ouragan? avec tout son trajet.
En fait, la naissance, c'est très compliqué parce que autant on sait bien prévoir, une fois qu'un ouragan est formé, on sait assez bien prévoir sa trajectoire, son intensité, etc. Par contre, le moment où il naît, alors surtout, finalement, le film parle de ce qu'on appelle les ouragans capverdiens,
oui.
C'est-à-dire ceux qui sont nés d'une onde d'est africaine. Ce sont des perturbations qui balayent l'Afrique à peu près tous les 5 jours. Et quand elles arrivent sur l'océan Atlantique, certaines, et on ne sait pas trop exactement lesquelles, mais certaines finissent par se déclencher en ouragan. Mais on ne maîtrise pas tout à fait les éléments qui font que ces ondes vont se transformer.
Il y a trop d'éléments, justement, c'est trop complexe pour pouvoir tracer la trajectoire très précise
de
l'ouragan.
Par contre, une fois que le système s'est formé, là, par contre, on sait bien suivre les trajectoires, faire des prévisions de trajectoires avec des cônes d'incertitude, des choses comme ça. Mais c'est le moment critique de sa naissance autour des îles du Cap-Vert, là.
Mmh.
Ça, c'est un élément qu'on maîtrise moins.
C'est assez mystérieux. Et c'est... En fait, il y en a un sur dix, uniquement un ouragan sur dix, qui a réussi à se former. Parce que finalement, c'est assez difficile de devenir un ouragan. Il y a tout plein de phénomènes qui peuvent arrêter la formation. Les tempêtes de sable, les vents en haute altitude qui leur coupent les têtes. Et il n'y en a vraiment pas beaucoup qui réussissent à naître, en fait.
Oui. Alors ce film, donc, c'est cette histoire, Lucie, et c'est aussi la vie des hommes, évidemment, qui croisent la route, malheureusement, de ces ouragans, à la fois des populations et puis des scientifiques qui travaillent sur le film. Alors, même chose, ces populations, vous avez pu les filmer au moment d'événements particuliers ?
Oui, on a fait vraiment beaucoup de préparation pour ça. On était partis à tout plein de reprises en réparage à Cuba, à Puerto Rico, aux États-Unis, dans la Nouvelle-Orléans. Et c'est ces zones-là qui sont très régulièrement frappées par les ouragans. Donc, on avait ciblé un petit peu les endroits où on voulait aller. Ouais.
Et on voit la vie de ces gens qui basculent du jour au lendemain, vraiment, avec l'arrivée de ces ouragans, de ces monstres qui balayent absolument tout sur leur passage et ces paysages de désolation ensuite.
Oui, et puis il y a une vraie différence dans les réactions. On voit à Cuba comment cette population, ils ont une vraie habitude en fait de vivre avec ces grands cyclones qu'ils voient tous les ans.
Ouais.
Et ils ont une manière de gérer ça qui est très différente des Américains. Où on sent qu'il y a beaucoup plus de résilience, beaucoup moins d'attache à des positions, à leur maison, en fait. Oui, ils ont cette habitude d'aller se mettre dans les petites tentes en bois qu'on voit dans le film. Oui. Qui, nous, quand on a vu ça en réparage, on a dit, mais quelle idée d'aller se mettre dans une tente
qui va s'envoler au premier coup de vent.
Oui, tout à fait.
Hein.
Mais en fait,
ça se tient,
ça a assez peu de prise au vent, beaucoup moins qu'à leur maison. Oui. Et le problème de leur maison, c'est qu'ils ont des toits en tôle. Et ça, c'est la première truc qui part dans les grosses tempêtes. Et ça devient très dangereux parce qu'après, il y a des phénomènes de pression qui se créent autour. Mm-hmm. Et c'est là où les murs des maisons commencent à s'effondrer. Mm-hmm. Et donc, du coup, depuis, je dirais, des millénaires, en fait, c'est un savoir-faire indigène, ces tentes-là. Et on le voit, en fait, dans toute cette partie des Caraïbes, du peuple Taïno qui avait cette habitude de construire ces tentes. Et finalement, il s'en sort pas si mal.
Fabrice Chauvin, quels sont les ingrédients indispensables, justement, à la formation d'un ouragan ?
Alors, comme l'a dit Jacqueline, il faut beaucoup d'humidité dans l'atmosphère. Ça, c'est un ingrédient important. Il faut un tourbillon initial, donc qui est en général fourni par l'onde d'est qui a quitté l'Afrique.
Ouais.
Il faut peu de ce qu'on appelle du cisaillement de vent, c'est-à-dire peu de différence avec l'altitude des vents, c'est-à-dire parce que le cisaillement de vent empêche la formation du système. Elle empêche le système de se structurer.
Mm-hmm.
Donc, si on a beaucoup de cisaillement, ça empêche le système de se structurer et ça favorise aussi les échanges du système avec son environnement qui aurait tendance à l'affaiblir.
Ouais.
Donc il y a cet ingrédient. Et puis on parle souvent de la température de surface de la mer, mais c'est pas l'événement le plus important. Ça joue, mais c'est pas l'événement le plus important.
Vous avez très belles images de la NASA aussi. Hein.
Oui.
On voit les ouragans vus du ciel. Ça, c'est extraordinaire.
Et on a vraiment eu de la chance à pouvoir travailler d'une manière très très étroite avec eux, avec les gens du National Hurricane Center à Miami et les gens de la NOAA avec qui l'équipe ont volé dans l'œil de l'ouragan.
Ah, ça,
avec
c'est extraordinaire.
Pilotes.
Cette séquence, elle est vraiment très impressionnante parce que vous avez déjà volé dans l'œil d'un ouragan, Fabrice Chauvin.
Aïe, aïe, aïe. J'ai bien aimé. J'ai un collègue qui l'a fait.
Mais c'est dangereux ou pas?
Ils font ça, les pilotes font ça depuis l'après-guerre. C'était un pari de bar d'un instructeur d'avion américain. Vraiment un pari de bar entre...
Un pari de fou,
oui,
quoi.
Oui, oui, oui. Et où tous ses amis disaient, vous pouvez pas faire ça. Et lui, il a dit, oui, je vais le faire, je vais vous le montrer que je peux le faire. Donc, il est parti, il a volé là-dedans, il est revenu.
Ouais.
Son instructeur des instruments et il l'a pas accompagné, donc du coup il l'a fait un deuxième fois, et à partir de ce moment-là, en fait, c'est quelque chose qu'ils font très régulièrement à chaque fois qu'il y a un ouragan qui menace la côte américaine. Ouais. En fait, ils envoient les avions dedans, et les pilotes qui font ça, quand on les rencontre, ouais.
Images sont extraordinaires.
On se dit mais quelle idée. Mais en fait, ça c'est leur travail quotidien. Ouais. Donc ils ont les têtes froides.
Et l'œil du cyclone, c'est extraordinaire, parce que c'est un lieu de quiétude quasiment. Hein, c'est très calme.
Et ils disent tous, en fait, tous les pilotes avec qui j'ai parlé de ça et l'équipe qui sont partis dedans, on parlait de ça comme étant une sorte d'expérience presque religieuse, presque spirituelle, en fait. Quand on traverse le mur de l'œil dans cette immense turbulence,
c'est ça.
Et on arrive dans cet espace totalement calme avec des fois des oiseaux qui sont piégés à l'intérieur et un stade de nuages gigantesque devant soi.
Ouais.
Des fois, ils n'ont vraiment pas de mots pour
ça. Ça fait partie vraiment des grandes séquences du film, avec aussi les images sous-marines. On voit aussi les effets de l'ouragan sur les fonds marins, qui sont complètement balayés aussi.
Oui, c'est vrai que c'est pas quelque chose auquel on y pense forcément, nous, êtres humains, de quel est l'effet sous l'eau. Mais un des partis pris du projet était vraiment de regarder non seulement ce qui se passe avec les hommes qu'on connaît un peu avec les JT et tout ça, mais aussi de voir comment la nature s'adapte.
Oui.
Et quel est l'effet qu'ont ces cyclones sur les fourmis, sur les crevettes,
c'est
sur
l'eau,
dans
et
les forêts.
On le voit très bien. On le voit très bien dans le film. Bernard Guiraud-Chomeil.
Oui, la question, c'est la mauvaise nature, l'ouragan. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a une finalité ou dans laquelle il y aurait un peu de bonne nature dans l'ouragan?
Ça, c'est une question un peu compliquée. Une finalité, je pense pas. Je pense que l'ouragan est un phénomène un peu
nocif.
Nocif pour les gens qui le subissent. Oui, ça c'est sûr. Nocif pour la planète, ça c'est une autre histoire.
Mais c'est ça la question.
Et c'est vraiment ce qu'on a essayé de démontrer dans le film, c'est de se décoller un peu de ce point de vue très humain qu'on a toujours, de se dire quelle horreur, et de le regarder avec un point de vue plus large et de montrer qu'elles sont essentielles, en fait, ces systèmes-là, pour recycler l'air, recycler l'eau chaude dans l'océan, remonter les fonds, et c'est vraiment très important. Et dans les années 80, les Américains ont essayé d'arrêter ces tempêtes. Ils avaient tout un programme scientifique pour semer des nuages, pour essayer vraiment de les empêcher au niveau des Cap Verde. Mais c'était vraiment pas une bonne idée, parce que si ils se sont arrivés à ça, ça aurait empêché toute cette chaleur de pouvoir être recyclée autour de la planète, qui est vraiment très essentielle.
Voilà, c'est Ouragan, donc, sur les écrans depuis mercredi, en 3D ou en 2D, ça dépend des salles. Donc renseignez-vous et essayez quand même de le voir en 3D, parce que c'est très impressionnant, magnifiquement filmé. Il y a un livre aussi, Ouragan, l'Odyssée d'un vent, qui est publié chez Actes Sud Junior. Et c'est donc la voix de Roman Boringer qui est celle de Lucie, cet ouragan.
Et la musique de Jan Tiersen qui est magnifique.
I'm just a girl, a wonderful girl, the sweetest one in town. You can search for miles around, no one like me can be found. Smile, a wonderful smile in a certain little way. Every time the boys get near me, they look at me and say, red hot mama, red hot mama, girl, of all we need. Red hot mama, some charmer, yes indeed. They said that I should be in the follies, hot tamales. They said that I got a pair of eyes just like old Svengali's. I confess that I possessed the sweetest charms in town. Miss my guest, the boys will follow me around. I can make a music master drop his fiddle, and a bald-headed man put his hair in a minute. I'm a red-hot mama, red-hot mama, and I have to turn my damper down. One in town, you can search for miles around, and no one like me can be found. I got a smile, a beautiful smile, in a certain little way. Every time the boys get near me, they look at me and say, red hot mama, red hot mama, I'm the one you need. Red hot mama, some charmer, yes indeed. They said that I must be in the follies, hot tamales. They said that I got a pair of eyes just like old Svengali's. I confess that I possess the sweetest charms in town. And unless I miss my guest, the boys will follow me around. I can make a
Texas farmer, forget his hay. Good devil, throw his fork away. Red hot mama, red hot mama, but I have to turn my dapper down.
Rosemary Stanley avec Red Hot Mama dans notre club des Têtes au Carré. Bernard Guiraud-Chomet, vous êtes professeur de neurologie, vous avez été chef de service au CHU de Toulouse et doyen de la faculté de médecine de Purpan. Et vous publiez, ils ont inventé la médecine aux éditions Michel Lafon, avec comme sous-titre « Gardons-lui son humanité ». Il y a un petit message là quand même. Hein.
Oui, je pense que la médecine, c'est une relation entre un soigné et un soignant. Et dans cette relation est tout à fait fondamentale.
Ouais, mais
il
n'y
a pas de bonne médecine sans confiance. Et cette confiance, il faut la gagner.
Ouais.
Et mon souci, c'est de voir que la clinique s'oublie pour être remplacée par des techniques tout à fait extraordinaires, mais dans lesquelles il manque l'élément charnel fondamental qui fait que vous êtes bien soigné par quelqu'un qui fait attention à vous. Vous avez le sentiment, quelquefois, que les médecins parlent à leur ordinateur, ils l'ont mis, quelquefois, entre eux et le malade, alors que le fond de la médecine, c'est d'écouter les gens qui viennent vous voir. Et si vous les écoutez bien, vous avez 60% de chances de savoir ce qu'ils ont avant de faire quoi que ce soit. Il vous en reste 20 en leur demandant de se déshabiller, en cherchant les signes qu'ils pourraient avoir, en particulier dans les maladies graves. Et il reste finalement 20% pour les grandes techniques. On a réussi un peu à l'envers, à dire que les gens arrivent en consultation avec des pilots d'examens et ils sont étonnés quelquefois que je ne les regarde même pas parce que je les écoute.
Les examens ?
Les examens.
Vous préférez regarder les patients ?
Je regarde les patients, je les écoute. Ouais. Ça allume dans mon cerveau un certain nombre de choses que je connais, ou que je ne connais pas.
Ouais.
Et j'arrive, et quand vous avez 80% de précision sur le diagnostic, c'est déjà pas si mal. Donc vous n'avez besoin d'une précision absolue que lorsque la gravité est évidente et que vous vous trouvez devant quelque chose qui est très grave.
Est-ce qu'on guérit mieux parce qu'on est mieux écouté par son médecin ? Est-ce que ça peut jouer comme un effet placebo d'ailleurs, hein ?
Mais je pense que quand on est dans un climat de confiance, comme on l'est là actuellement, ça se passe beaucoup mieux que quand on est dans un climat de bagarre. Donc je ne crois pas qu'il y ait d'effet biologique majeur. Je pense que pour guérir d'une maladie infectieuse gravissime, il vaut mieux un antibiotique. Mais les deux sont absolument essentiels.
Ouais.
Le lien entre le soignant et le soigné, mais il existe depuis toujours. C'est le pacte de confiance que même dans les sociétés les plus primitives, il existait entre le magicien et... Voilà. C'est fondamental, la médecine.
Ouais.
Si vous faites la médecine pour faire marcher des machines, vous risquez simplement une chose, que ce soit les machines qui vous fassent marcher. Et ça, je pense que c'est pas l'avenir de la médecine.
Alors
voilà
justement,
pourquoi je l'ai écrit.
Vous parlez de la magie, justement. On voit dans cette histoire de la médecine qu'elle est absolument prépondérante, en tout cas au début. C'est-à-dire que la science est très peu présente.
Mais,
hein. C'est l'histoire de croyance et de Dieu.
Oui,
hein.
je crois qu'il y a chevillé à notre corps, dès le début, une relation surnaturelle. Parce que si on regarde un tout petit peu l'histoire, les Égyptiens et les Grecs avant Carême, Hippocrate et Aristote, ils pensent que, comme nous quelquefois, quand il nous arrive quelque chose de très grave et une maladie que nous savons ne pas pouvoir guérir très, très facilement, nous avons immédiatement l'idée que c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait ? À qui j'ai fait quelque chose ? Est-ce qu'il y a une force supérieure
divine,
et, qui vide ? Et oublier cette idée-là fait que la science ne peut pas lutter contre ça. L'un est une croyance, l'autre est un savoir. Et donc, j'essaie de montrer que la montée du savoir, qui est arrivée depuis 80-90 ans à l'efficacité, conduit peut-être à repousser dans des limites un peu de charlatan cette magie.
C'est Hippocrate qui va tout changer, au fond ? Qui va imposer une sorte d'éthique médicale
Ils sont trois. Ils sont trois, à mes yeux. C'est Hippocrate qui est le premier à dire « il faut écouter, il faut regarder, il faut examiner les choses surnaturelles ». Ce n'est pas en rapport avec la médecine, c'est naturel. C'est pour ça que vous vous intéressiez tout à l'heure sur votre nature. Aristote...
Vous parlez à Jacqueline Farmer avec ses ouragans. Je traduis pour les auditeurs.
Et manifestement, Aristote a été celui qui... Il a commencé par regarder tous les animaux qu'il y avait sur le littoral grec. C'est un fantastique anatomiste, presque un embryologiste. Et il a compris que la maladie, c'était quelque chose de naturel. Et Galien, lui, a fait des autopsies, ils sont arrivés. C'est les trois.
Voilà.
Mais c'est tombé dans le... Pratiquement, personne n'a écouté, parce que le surnaturel était très présent.
Et le religieux a eu de belles heures encore après.
Et alors le religieux, dans un système du Moyen-Âge avec une économie épouvantable, il n'y a plus que la générosité qui apparaît. C'est-à-dire que la maladie est tellement terrible, elle s'ajoute à tous les malheurs qui tombent sur les gens, que la religion va être un... C'est elle qui crée les hôpitaux.
Eh oui. Et on doit,
et
on
les
doit
hôpitaux, faire de la... Et les hôpitaux, ça permet à la fois de sauver les indigents et les malades qu'on met en même temps, et faire d'une, une, quelque chose de santé publique majeure, ça les coupe des biens portants. Donc la religion a quelque chose. Elle n'est pas capable de répondre à la science, de même que la science n'est pas capable de répondre à la religion. Elle a apporté cet élément de générosité, qui est un élément fondamental. Le jeune étudiant en médecine, il va en médecine pourquoi ? Il va en médecine parce qu'il a envie d'aider les gens en souffrance. Il y a qu'à voir tous les jeunes étudiants qui, en fin de première année en Russie, combien ils vont dans les pays du tiers-monde en train de participer à... Donc il y a ça qui est chevillé aux cordes. Hein, le surnaturel, ça existe ou ça n'existe pas, c'est pas mon problème.
Mais... Et le serment d'Hippocrate, la pierre angulaire de la médecine. On écoute un extrait de ce film, La maladie de Saxe, justement, on évoque ce serment.
Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent et n'exigerai jamais un salaire au-dessus de mon travail. Admis dans l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés et mon état ne servira pas à corrompre les mœurs ni à favoriser le crime. Respectueux et reconnaissant envers mes maîtres, je rendrai à leurs enfants l'instruction que j'ai reçue de leur père. Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses. Que je sois couvert d'opprobre et méprisé de mes confrères si j'y manque. C'est un début ou une fin ?
Un début.
Voilà, le serment d'Hippocrate, Bernard Guérot-Chaumeil. Vous l'écoutez avec une certaine émotion. Hein ?
Et oui, parce que forcément, ouais. Hippocrate, c'est celui qui, d'un côté, dit la maladie, c'est naturel, et qui, deuxièmement, développe les deux idées essentielles, l'éthique et la probité.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on est responsable devant le malade, on est responsable devant la famille de ce qu'on va lui proposer. Et donc, c'est les éléments fondamentaux. Et ça, vous ne le faites pas passer par les techniques, vous le faites passer par la relation. Vous me disiez tout à l'heure que vous regrettiez le passé, pas du tout. Il faut aller chercher dans le passé les valeurs qui ne doivent pas être trop écornées. Ouais. L'éthique et la probité en médecine, c'est... tout à fait cela.
Bernard Guérot-Chaumeil, dans ce mur qui est en couverture de votre livre, avec tous les grands noms justement qui ont inventé la médecine, lequel d'entre eux vous intéresse le plus ? Vous avez vos favoris ?
Alors d'abord, je vais vous dire dans mes favoris, il y a quatre qui ne sont pas médecins.
Mmh.
C'est Darwin, c'est Mendel, c'est Pasteur, Claude Bernard. Mmh. Deux Français... Un anglais. Et un tchèque.
Donc ça, c'est votre carré. Hein ?
C'est mon carré. Et quand j'ai écrit cela, j'ai fait lire mon livre, il me dit, mais il n'y a pas une femme.
Ça, c'est vrai.
C'est vrai.
Il n'y a pas une femme.
Qu'est-ce qui se
passe ? Donc je me suis repris, et une qui est fantastique, c'est Marie Curie.
Ouais.
Parce qu'elle a cette intelligence mathématique, et puis une fantastique scientifique. Et dans le même temps, elle était polonaise sous la tutelle russe, et elle voulait consacrer sa vie à l'éducation des pauvres de sa Pologne. Et son mari, Pierre Curie, avant qu'ils ne vivent ensemble, a été obligé d'aller la rechercher là-bas, alors qu'elle avait fait la démonstration en France, qu'elle était la première en mathématiques, la première en physique. Et finalement, tout de même, elle est la seule qui a eu deux prix Nobel... Et deux prix Nobel, chacun dans une spécialité différente.
C'est un cas unique. C'est absolument un cas unique. Voilà.
Donc je me suis dit, quand on m'a fait ce reproche, je me suis dit, là, tout de même, c'est une femme qu'il faudrait être dans mon carré.
Jacqueline Farmer, pour terminer.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui les relie, ces cinq personnes, une trait de caractère en commun qu'ils avaient tous?
Oui, le premier, c'est le génie. Donc je me suis intéressé à savoir qu'est-ce que c'est que le génie. Alors j'ai cherché partout ce que c'est que le génie. C'est des gens de conviction. Et deuxièmement, qui travaillent 18 heures par jour.
Et qui vont souvent à l'encontre aussi de l'époque où ils vivent. Parce qu'ils ont tous beaucoup de courage.
Ils savent tout. Ils savent tout, Pasteur. Ils savent tout de ce qui est le savoir du moment. Mais ils vont plus loin. Ils vont chercher Kant. Ils dépassent la minorité. Il n'y a plus ce veto des gens qui savent. Et alors, bien entendu, les gens qui sont dans des niches, les gens qui exercent sur les, disent non, c'est pas possible. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais je pense que ça, on le voit encore maintenant.
Voilà. Mais c'est bon signe. Quand on a tout le monde contre soi,
c'est très difficile.
Voilà, c'est parfois bon signe finalement. Hein. Oui. Ils ont inventé la médecine, gardons-lui son humanité, c'est chez Robert Laffont. Et c'est donc ce livre de réflexion et d'histoire que vous signez, professeur Bernard Guérot-Chaumeil. Allez, dans un instant, on va parler d'instruments intelligents avec l'IRCAM et vous allez entendre des choses très bizarres dans ce club des têtes au carré. L'instant sur France Inter.
La tête au carré. Le club. Sur France Inter.
Adrien Mamoumani, vous êtes chercheur, responsable de l'équipe de recherche en acoustique musicale à l'IRCAM. En ce moment se déroule et jusqu'au 2 juillet le Festival du Manifeste, organisé donc par l'IRCAM. Quelle est la nature de cette manifestation, en quelques mots ?
C'est un festival et une académie pendant un mois où vous pouvez assister à pas mal de concerts et où en même temps les musiciens participent à des formations avec le personnel de l'IRCAM et des compositeurs.
Ouais. Et donc on pourra entendre entre autres ces instruments intelligents. C'est l'objet de notre discussion avec vous aujourd'hui. Donc vous en avez un entre les mains, un instrument intelligent. Pourtant, il ressemble beaucoup à une guitare, hein, si je ne m'abuse.
Eh oui, donc l'idée de ces instruments intelligents vient de ce qu'on appelle les smart structures, smart materials, ce qui est tout un domaine de la mécanique vibratoire depuis les années 90 et dont on a essayé d'appliquer les principes aux instruments de musique, qui consiste à pouvoir transformer les propriétés vibratoires des objets en temps réel pour donner une nouvelle physique, ouais. Programmer soi-même la physique.
C'est ça. Donc c'est pas tant de nouveaux instruments que vous inventez, mais plutôt des supports ou des logiciels qui permettent justement de transformer le son de ces instruments qui existent déjà. C'est
ça, il y a une partie matérielle, une partie logicielle. On vient installer un dispositif sur un objet normal, en particulier pour nous un instrument, une guitare ici, c'est vrai que ça a l'air d'être une guitare normale.
Oui, apparemment. Oui.
Voilà, en fait, il y a ce petit koala qui vient se connecter, qui est un petit ordinateur, des capteurs, des actionneurs. On installe tout ça sur l'instrument et la guitare commence à avoir des nouveaux usages, à la capacité de se transformer.
Vous appelez ça le koala, en fait, parce qu'il prend l'instrument dans ses bras,
voilà,
quasiment.
Voilà, c'est ça, il vient s'accrocher. Il est tout mignon, tout gentil, voilà. Et il vient s'accrocher.
Adrien Mamoumani, vous nous faites écouter quelque chose qui traduit justement ce qu'est un instrument intelligent.
Voilà, alors j'ai entendu sur France Inter ce matin qu'il y avait une actualité autour de Neil Young, le chanteur, guitariste bien connu de toutes les personnes qui apprennent à jouer de la guitare. Ouais. Donc, je me suis dit, je vais faire un petit hommage avec un des premiers morceaux que j'avais appris à la guitare. Donc, si vous écoutez ce morceau-là.
«
voyez, c'est le premier, j'en ai pas fait beaucoup plus, hein. Vous voyez que c'est pas terrible, terrible. Mais donc voilà, ça c'était une guitare normale.
Oui, il n'y a pas d'intelligence particulière.
Voilà, mais maintenant, dès que vous commencez à rajouter ce petit système du koala, voilà ce que vous pouvez obtenir par exemple. Voilà, donc là, dans ce qu'on a entendu, peut-être que les gens, les guitaristes reconnaissent ce genre de timbre, de modification de timbre, d'octaveur qui vient transformer le son. Ce qu'il y a de particulier dans ce qu'on vient d'entendre, c'est que c'est la guitare qui a fait tout ça. Il n'y a pas eu d'ampli, il n'y a pas eu d'enceinte extérieure, tout est venu directement du son de la guitare.
Mais alors, comment vous avez fait? Parce que la guitare, elle est là, effectivement. Donc, c'est Koala qui est posé dans un endroit particulier de cette guitare?
Alors, dans le cas de cette guitare, on le met à côté, à la manière un peu d'une pédale de guitare. Et donc, il y a cet ordinateur qui tourne, qui est piloté par un iPhone ou par un smartphone qui nous permet de transformer les valeurs qu'on va avoir dans cet ordinateur. Et des deux côtés de cet ordinateur, en entrée, on va avoir des signaux qui viennent de capteurs qui sont sur l'instrument, que connaissent bien aussi les guitaristes, tous les musiciens, capteurs piézoélectriques, et de l'autre côté, des actionneurs. C'est encore plus rare en musique aujourd'hui, mais c'est des sortes de petits vibreurs qui viennent utiliser les propriétés de la caisse de résonance de la guitare pour les transformer en haut-parleurs.
Ouais. Et donc là, vous avez à votre disposition une gamme illimitée, c'est-à-dire Koala vous permet, par exemple, sur ce même morceau, de pouvoir donner toutes les variations possibles.
Alors, je sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais en tout cas, on peut d'une part faire tous les effets que connaissent les guitaristes, ça, on espère, on arrive à avoir des choses assez stables pour toutes ces choses-là, et ce qu'on amène en plus, c'est que c'est pas simplement une sorte d'ampli embarqué dans un instrument, c'est aussi que vous êtes votre propre luthier, donc ça m'intéressait bien tout à l'heure ce que vous expliquiez dans la relation entre le médecin et son patient, qui me rappelle beaucoup la relation entre le luthier et le musicien, et le musicien, dans ce dialogue en permanence, c'est là qu'émergent les instruments et avec des qualités particulières. Nous, ce qu'on vient faire ici, c'est qu'on vient faire un peu un intermédiaire entre les deux, où le musicien va pouvoir montrer à son luthier et transformer lui-même les propriétés à la manière d'un luthier. Je ne sais pas si ça rebondit un peu.
Je suis neurologue, par conséquent, j'imagine que dans l'hémisphère droit, il se passe quelque chose quand on passe d'une musique à une autre. Je ne suis pas un musicien, mais j'imagine que le créateur, moi ma question c'est celle-ci, est-ce que la création du musicien va être différente en fonction de l'appareil qu'il va avoir entre les mains? C'est ça la question, est-ce que vous allez avoir...
Est-ce que ça va s'allumer de la même manière dans le cerveau, par exemple?
Oui, sans doute s'allumer, ça c'est pas très difficile, mais c'est de savoir si la création, comme parce que la cervelle c'est au-delà de l'ordinateur, la cervelle est capable de créer quelque chose, et qu'est-ce qu'elle va créer de plus avec l'un par rapport à l'autre? Est-ce qu'elle va se surpasser? Est-ce que justement il va y avoir des gens qui faisaient très bien avec l'un, qui feront moins bien avec l'autre?
Bonne question du professeur de neurologie. Hein.
C'est une question passionnante qui est un débat dans la musique depuis toujours, entre les platoniciens et les aristotéliciens d'une certaine manière. Moi qui travaille sur la lutte, je suis plutôt proche des aristotéliciens sur l'influence de la matière et de la physique sur la qui ouvre des potentiels créatifs. Je suis un petit peu technophile en ce sens-là, c'est-à-dire que je considère que par cette matérialité
vous créez quelque chose de nouveau.
Et par un peu de la phénoménologie, on pourrait dire, dans cette relation entre la matière et l'humain avec ses capacités cognitives, neuro, et en même temps de jeu et de tout l'apprentissage qu'on a eu sur ces instruments, toute la connaissance qu'on a des timbres, on arrive à aboutir à comme ça de la nouveauté. Ouais. Alors après, on a des cas extrêmes comme Bach, où on sait que quel que soit l'instrument qu'on va utiliser pour jouer du Bach, ça va toujours être magnifique. D'ailleurs, toutes les démonstrations des nouveaux synthétiseurs sont toujours faites avec du Bach, parce que ça sonne tellement bien que... ça dépasse là la matière.
Ça fait longtemps justement, Adrien Mamoumani, qu'on cherche à adapter les instruments comme ça ou pas?
On pourrait dire que le luthier, c'est le métier du luthier. Donc depuis l'invention, enfin depuis l'humanité, on a toujours transformé comme ça ces instruments qui sont créés pour produire la musique. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que depuis l'apparition de l'électricité, la maîtrise de l'électricité depuis le 19e siècle, on a commencé à trouver des premiers brevets avec cette boucle de contrôle qu'on a entre les capteurs et les actionneurs sur les instruments. Donc c'est vraiment quelque chose, et les musiciens de toute façon ils utilisent toujours les sciences et les techniques de leur époque pour essayer de transformer.
Allez, donnez-nous à entendre encore quelques exemples, parce qu'on parle, mais on a envie de vous entendre.
Ok, alors on va un peu changer de modulation qu'on va appliquer.
Donc là vous êtes sur votre smartphone, vous l'avez sur les genoux.
Toujours le même morceau que tout à l'heure.
Mais cette fois-ci, un effet qui s'approche de ce qu'on appelle un effet chorus. Donc ça, par exemple, ça peut faire un peu... Pour du jazz, c'est plutôt sympa, quoi. Vous êtes avec votre guitare sèche et vous pouvez faire un peu de jazz, avoir un son qui n'est pas aussi sec que la guitare sèche d'habitude. Alors que si je fais le son normal... Vous voyez, il y a moins de vie dans le son, quoi. Donc ça rajoute un peu de vie, par exemple.
Jacqueline Farmer.
Oui. Koala, il s'adapte au piano, à la trompette, à la clarinette. On peut le mettre sur n'importe quel instrument.
Ah, je sens que vous avez envie de l'embarquer chez vous déjà. Hein.
Le koala est-il en vente?
Oui, alors il n'est pas encore en vente, mais on espère qu'il sera bientôt. Donc n'hésitez pas à vous connecter sur smartguitar.fr et à nous donner vos coordonnées si ça vous intéresse. Parce qu'en effet, c'est un dispositif qui peut bien s'adapter. Donc pendant le festival Manifest, vous pourrez le voir sur un quatuor à cordes. Il y a une pièce qui va être jouée le 27 juin au Bouffe du Nord de Marco Momi, quatuor à cordes et piano. Et sur ces 5 instruments, vous aurez ces instruments qui seront leurs propres haut-parleurs à faire des choses bizarres. Vous aurez aussi la guitare le 24 juin à la Philharmonie. Vous aurez comme ça plusieurs événements. Même dans les instruments avant, ça marche. On a travaillé en particulier avec le clarinettiste Alain Billard et le tromboniste Bénice Louchine pour transformer leurs instruments avant. Les percussions aussi, on fait tout. C'est vraiment, on est les luthiers. Voilà.
Adrien Mamoumani, Stéphanie Texier, notre réalisatrice, qui aimerait bien entendre du Jean-Sébastien Bach à la guitare. C'est possible, ça, ou pas? Parce que c'est plus un clavecin ou un piano,
moi, je peux vous faire du Jean-Sébastien Bach au violoncelle, mais je reste un guitariste pas terrible, donc non.
Allez,
désolé.
Autre chose,
en
avant
tout cas,
de se quitter.
C'est possible, on va peut-être essayer de faire un peu partir ça en Larsen, parce que les guitaristes aiment toujours faire un peu de distorsion, donc ça finit un peu rock'n'roll.
Mais oui, allons-y. Waouh. Et vous êtes bien sur France Inter, hein, pour ceux qui se branchent à l'instant, n'ayez pas peur. Voilà, donc c'est dans le cadre de ce festival de l'IRCAM. On a toutes les coordonnées et tous les rendez-vous sur le site qui est en lien évidemment sur La Tête au Carré. C'est ce festival jusqu'au 2 juillet pour, entre autres, écouter ces instruments intelligents. Donc il y a encore de quoi faire jusqu'au 2 juillet. Hein.
Ah oui, oui, venez nous voir. Et venez en particulier à la journée du 18 juin que j'organise, vous pourrez assister à des démonstrations, voire même tester ces instruments.
Voilà, professeur, est-ce que ça vous intéresse d'aller
Oui, sûrement.
Exposer votre cerveau à ces drôles de sons?
Très vite. À partir du 18, il faut trouver autre chose, hein, parce que je vous signale que ce n'est pas en améliorant la chandelle qu'on a trouvé l'électricité. Et
tout
par conséquent, il va falloir un saut technologique.
Ça nous emmène sur une autre discussion, mais la musique a justement... Avec l'électricité, fait des transformations énormes. Et ce qu'on remarque, c'est que avec tous ces principes de réalité augmentée, on peut allier ces deux mondes-là et faire des innovations majeures, tout en respectant les savoir-faire des musiciens traditionnels aussi.
Je sens que vous avez des trucs à vous raconter tous les deux.
Ils vont aller plus loin.
Voilà, l'émission n'est pas terminée. Ils ont inventé la médecine. C'est chez Michel Lafon et puis Ouragan, évidemment sur les écrans depuis mercredi, puis également en images dans un livre paru chez Actes Sud Junior. Merci beaucoup à tous les quatre.